France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, une catastrophe écologique et humaine dans l'une des régions les plus polluées au monde, le delta du fleuve Niger au Nigeria. Troisième exportateur de pétrole, le Nigeria alimente le profit de multinationales comme Shell, Total Energy ou Chevron, qui exploitent l'or noir nigérian sans en assumer, ou si peu, les conséquences sociales et environnementales d'une telle industrie. Plus de 60 ans après l'arrivée de ces compagnies au Nigeria, le constat est glaçant. L'eau du fleuve Niger est hautement contaminée, la mangrove décharnée, les terres incultivables et les corps malades, dans une région où l'espérance de vie dépasse à peine 40 ans. En cause, la pollution au gaz des torchères et les marées noires répétitions qui frappent le delta sans discontinuer depuis plusieurs décennies. Pollution massive, injustice sociale, impunité industrielle, corruption et trafic, retour sur une catastrophe au long cours, la destruction du delta du Niger. Notre invitée aujourd'hui, Juliette Renaud, spécialiste du secteur extractif et coordinatrice de l'association Les Amis de la Terre. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Jeanne Ayer, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles sur France Inter.
C'est au sud du Nigeria, dans le golfe de Guinée, que le fleuve Niger rejoint l'océan Atlantique après 4180 km de course depuis les montagnes guinéennes. Le delta du Niger est un milieu naturel exceptionnel. 70 000 km² d'eau douce et salée, de rivières et de marécages, de forêts tropicales et de mangroves, où s'épanouissent crocodiles, hippopotames, singes et oiseaux migrateurs. Des terres rendues fertiles par le fleuve lui-même, riches en poissons, en crabes et en mollusques, qui nourrissent depuis toujours celles et ceux qui habitent le delta. Une terre et des eaux nourricières donc, mais aussi du pétrole. Le début de l'exploitation du pétrole nigérian par des compagnies étrangères remonte à l'époque coloniale. Dans les années 30, la Royal Dutch Shell obtient du colon britannique des droits exclusifs d'exploration dans le delta du fleuve Niger, avant de découvrir en 1956 un premier gisement exploitable. Deux ans plus tard, les premières exportations de pétrole brut commencent, juste avant l'indépendance du Nigeria en 1960.
Depuis ce matin, le monde compte un nouveau pays indépendant, la Nigeria. Nous avons eu l'occasion ces jours derniers de vous dire l'importance et la richesse de cette ancienne colonie britannique de l'Ouest africain. Aujourd'hui, un geste symbolique et officiel, montée des couleurs nigériennes à Lagos. Jean Branelec assistait à ce moment de l'histoire africaine.
Tandis que la foule et l'orchestre chantent le dernier couplet de l'hymne national nigérien, vous pouvez peut-être entendre en fond sonore les sirènes de tous les bateaux du port de Lagos qui sifflent, qui sonnent. Il est minuit, la Nigeria est indépendante.
Après l'indépendance du Nigeria, et non pas de la Nigeria, les compagnies étrangères conservent le contrôle de l'exploitation du pétrole et déploient encore plus solidement leurs tentacules à vide. Après la britannique Shell, arrivent les américaines ExxonMobil et Chevron, puis la française Elf en 1962, aujourd'hui Total Energy et l'italienne Eni. Dans un contexte de stratégie énergétique postcoloniale, Elf s'installe durablement dans le delta, pour y exploiter pétrole onshore, offshore et gaz naturel liquéfié. Cinq ans plus tard, c'est la guerre du Biafra. De 1967 à 1970, un conflit sanglant oppose le gouvernement fédéral au peuple Igbo, qui proclame la République de Biafra dans le sud-est du pays, une région riche en pétrole grâce au delta du Niger. Mais pas question pour l'État central de perdre l'accès à cette manne. Quant au Royaume-Uni, qui entend protéger les intérêts de Shell, il soutient activement le pouvoir fédéral en lui fournissant des armes. Reportage de Jean-François Chauvel pour le RTF en décembre 68.
Le Biafra. On parle de trêve, et pourtant la guerre continue. Un rat, image de la famine qui ravage le Biafra. 6 000 morts par jour. Sur les terres libérées, les paysans regagnent leurs villages, brûlés, en ruine.
Pour nous, ce Noël sera le deuxième Noël d'angoisse et de souffrance. Et nous espérons qu'il sera le dernier Noël de guerre. À nos amis français, je souhaite un Noël de paix.
Officiellement neutre, la France soutient discrètement le Biafra. Poussée à la fois par l'émotion d'opinion publique face à la crise humanitaire en cours et par ses intérêts économiques. C'est l'occasion pour Elf de jouer sa place dans la course du pétrole africain. Le conflit s'achève en 1970 et l'or noir devient le pilier de l'économie nigériane au détriment de l'agriculture et de l'industrie. Une dépendance que vient encore renforcer la crise pétrolière de 1973 quand l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, augmente le prix du baril dans le contexte de la guerre du Kippour entre Israël et une coalition de pays arabes. La France notamment, qui dépend massivement des importations de pétrole du Moyen-Orient, cherche alors à diversifier ses sources d'approvisionnement et se tourne vers l'Afrique. Albin Chalandon, patron d'Elf Aquitaine, se félicite dans les années 70 du dynamisme de l'industrie pétrolière et de ses retombées sur le continent.
Nous sommes un peu les spécialistes de l'Afrique. Nous nous entendons bien avec les dirigeants des pays qui la composent. Nous cherchons à nous implanter le plus possible dans le plus grand nombre de pays possible. Nous sommes déjà au Nigeria. Nous venons d'y renforcer notre position. Là où nous sommes déjà solidement installés, où nous produisons, nous menons systématiquement une politique de coopération industrielle avec le pays concerné. C'est-à-dire que nous lui apportons notre technologie, notre savoir-faire, nos hommes, pour essayer de développer des activités nouvelles hors pétrole.
Alors que l'exploitation du pétrole nigérian débute à peine, les habitants et les habitants du delta du Niger en constatent déjà les effets sur leur environnement. En juillet 70, un important blowout, autrement dit une éruption incontrôlée de pétrole sur le champ de Boumou, pollue les sols et les rivières dans la région Ogoni, à l'est du delta. Greenpeace et la Banque mondiale comptabilisent en 15 ans 2800 fuites d'hydrocarbures, soit l'équivalent de 2 millions de barils de pétrole déversés dans l'environnement à la suite d'accidents ou de fuites. L'eau se couvre alors de reflets irisés visqueux, tandis que le sombre poison de l'or noir s'infiltre dans les organismes des poissons et des crustacés. À mesure que les filets se vident, les pêcheurs du delta constatent avec horreur qu'ils sont en train de perdre leur principal moyen de subsistance. Pour tenter de survivre, reste alors la grande ville, Port Harcourt, et son lot de misère. John Agaba, pêcheur dans le village de Bodo, lutte pour nourrir ses enfants, comme il l'explique au journaliste canadien Jesse Winter.
Nous sommes pêcheurs. Et avant la marée noire, je pêchais avec mon père depuis mes 12 ans. Vous voyez où est ma maison, là où je vis. Je vis au bord de l'eau. Regardez, vous voyez du pétrole partout. Quand la marée reflue, le pétrole s'écoule là où mes enfants avaient l'habitude de jouer.
L'autre fléau du delta du Niger, ce sont les torchères, ces grandes cheminées qui laissent échapper d'immenses flammes et d'épaisses fumées noires, juste à côté des villages, comme à Obagi, où les compagnies Total Energy et Eni sont présentes depuis 1966. Pour se débarrasser à moindre coût des gaz résiduels des forages, les compagnies pétrolières pratiquent le torchage, qui consiste à brûler ces gaz, mais qui libère dans l'atmosphère de grandes quantités de CO2. Une technique qui contribue au réchauffement climatique, tout en contaminant les terres cultivables et l'eau potable. Les émissions des torchères acidifient également les pluies qui rongent le toit des habitations et la végétation. Un habitant de l'état de Rivers laisse exploser sa colère au micro de la journaliste britannique Yvonne Hunted.
L'impact de ces torchères est une dégradation totale de l'environnement. À cause de la chaleur incessante qu'elle dégage. Quand il pleut, nous buvons du gaz. La communauté Akalaolu vit sous les flammes. Elles sont juste au-dessus de nos têtes. Vous les avez vues ? Le gouvernement devrait intervenir. Les ONG devraient écrire à ce propos pour que le monde entier comprenne qu'une communauté nommée Akalaolu est asservie par le feu. S'il vous plaît, dites au monde à quel point notre communauté souffre.
En 1984, le Nigeria interdit la pratique du torchage, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités. Parce que quand il s'agit de pétrole, l'intérêt des compagnies semble toujours primer, y compris sur la santé du peuple nigérian. Car si les communautés du Delta s'habituent aux yeux qui pleurent, à la gorge qui brûle et aux odeurs âpres qui flottent dans l'air, leur corps ne résiste pas aux assauts du pétrole et des gaz. Confrontés à des maladies qui se déclarent chez des patients de plus en plus jeunes, les médecins des régions concernées font tous le même constat d'impuissance. Des patients, ou plutôt des patientes. Car les femmes sont les premières victimes de la pollution au pétrole et au gaz. Affections cutanées, problèmes respiratoires, fausses couches, cancer de l'utérus. Non seulement elles sont plus vulnérables quand elles sont enceintes, mais elles cumulent plusieurs activités au contact de l'eau et des terres polluées. Pêche, agriculture et travail domestique. Victor Egbe, de la communauté d'Akalaolu, tire la sonnette d'alarme dans Poison Fire, un documentaire de Lars Johansson.
C'est l'enfer dans lequel on vit depuis 32 ans. On a des problèmes pulmonaires, respiratoires, des patients asthmatiques partout dans la communauté. Toute la nourriture qu'on mange est polluée par le gaz. On ne dit pas qu'on doit nous donner de l'argent, on dit que le torchage du gaz doit cesser. Le pétrole devrait être une bénédiction pour notre terre. Mais c'est devenu une malédiction. Regardez notre terre, il n'y a plus rien. Est-ce que c'est comme ça en Occident ? On meurt ici.
L'industrie du pétrole au Nigeria appauvrit chaque année un peu plus les populations locales. Selon un chiffre rapporté par la Banque mondiale, 80% des revenus issus du pétrole et du gaz ne profiteraient qu'à 1% de la population du pays. 1% de Nigérians et de Nigérianes, ceux et celles qui vivent sans doute bien loin des torchères et de leurs puits acides. Quant aux cadres et aux employés expatriés des multinationales, ils disposent avec leurs familles de quartiers sécurisés, avec leurs propres magasins, écoles, médecins et réserves d'eau potable. À Port Harcourt, la Shell Residential Area, créée à la fin des années 50, offre même une piscine et un golf à ses résidents. Face à la violence de ces inégalités et à la destruction de leur environnement, et donc de leur santé, les populations du Delta vont faire émerger leurs revendications au milieu des années 90. Le combat ne fait alors que commencer.
I fall too easy, and I bought the whiskey, but no big disability you. Some people bind and cast, some of them pray and fast. As is a pastor, then they fast. Shall not the thing we got command because of oil and gas. My city so dark, pollution make the air turn black. Every man have to stay on guard. I fall too easy, and I bought the whiskey. But no be disability you, no be disability you. I fall too easy, and I bought the whiskey. But no be disability you, no be disability you. People day with they sleep for their mouths, they getting over. Some they walk on the other side of town, them they fall hold up. Some they pray for the traffic, make them hail you, make you show love. And when he reach, so they go back home, you go club. I know say no easy, my brother, but still they take them easy, my brother. As long as you are breathing, my brother, as long as you no sink inside the water. I fall too easy, and I bought the whiskey.
But nobody disability. I'm a good nobody disability. I fall too easy. When I party whiskey. But nobody disability. Nobody disability. People day with the pray for the rain, but you know fall. Rain they fall for another man place, and you know stop. It be like swimming pool for a mouse, as he don't flood. All the things where he cared for a mouse, man he don't lost.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Delta du Niger, quand le pétrole tue.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Delta du Niger, Ogoniland. Un territoire de 1000 km², riche en pétrole, où vivent 1,5 million de personnes issues des communautés Ogoni. C'est là qu'est né Ken Saro Wiwa, écrivain et producteur de télé, qui fonde en 1990 le MOSOP, le Mouvement pour la Survie du Peuple Ogoni. Boycott, pétition, manifestation, occupation. Ken Saro Wiwa et le MOSOP dénoncent le désastre écologique imposé par l'anglo-néerlandaise Shell dans l'Ogoniland et réclament un meilleur partage des richesses. Mais l'État central nigérian, inquiet de l'opposition qui gronde et menace ses intérêts, va rapidement s'atteler à faire taire les contestations. La répression du gouvernement militaire de Sani Abacha provoque la mort de 2000 personnes. En 1994, dans une ultime tentative d'intimidation, le porte-parole du mouvement, Ken Saro Wiwa, est accusé à tort de meurtre et jugé avec 8 autres militants Ogoni dans un simulacre de procès à l'issue funeste. Ce que rapporte Laurent Lejope pour France 2, le 10 novembre 1995.
Les dernières images de l'écrivain nigérian Ken Saro Wiwa. Elles ont été tournées lors de son procès il y a tout juste 10 jours. Saro Wiwa venait d'être reconnu coupable de meurtre, le verdict, condamné à mort. Malgré les nombreux appels à la clémence venus du monde entier, la justice nigériane est restée inflexible. Saro Wiwa et ses 8 compagnons opposants au régime militaire de Lagos ont été pendus à 11h30 dans une prison du sud du pays. Jusqu'à leur mort, ils n'ont cessé de clamer leur innocence et de crier à la manipulation.
La mort de Ken Saro Wiwa, qui vaut au Nigeria son exclusion du Commonwealth, ne suffit pas à faire taire les voix de celles et ceux qui dénoncent la toute-puissance des compagnies pétrolières dans le delta du Niger. À la fin des années 90, d'autres mouvements protestataires émergent, sporadiquement, toujours violemment réprimés par l'État nigérian, parfois avec le soutien des compagnies pétrolières elles-mêmes. Au tournant des années 2000, ce sont les femmes qui prennent le relais de la contestation. Premières victimes du pétrole parmi la population nigériane, elles vont par centaines, parfois par milliers, occuper des bureaux et des stations de pompage pour défendre leurs droits. En compensation des effets de la pollution sur leur santé et sur leurs terres, elles demandent l'eau potable, l'électricité, des écoles, des cliniques et surtout de l'emploi. En juillet 2002, pendant plus de 10 jours, elles sont des centaines à bloquer la production d'un terminal pétrolier de l'entreprise américaine Chevron. Leur arme principale, leur corps, malmené, qu'elles menacent de dénuder pour faire fuir ouvriers et agents de sécurité nigérians. Car ce geste ancestral, profondément transgressif, est considéré dans la région comme un acte de malédiction pour celui qui contraint les femmes à y recourir. Mais face au Goliath de l'or noir, et malgré des dynamiques collectives qui nourrissent l'espoir, les populations, livrées elles-mêmes, pèsent peu. Correspondance de Jean-Luc Aplogan pour RFI.
Les femmes qui manifestent là où l'islam domine, le symbole est fort. Elles font trembler une grande firme pétrolière. Mieux, nos mamans nigérianes ont assiégé les installations, bloqué les accès, paralysant du coup toute activité sur le site. Le recours à la brutalité policière nigériane n'a jamais étouffé la grogne. Pour nos 150 femmes, les pétroliers ont choisi la négociation. Mais le discours risque d'être du déjà entendu. Nous payons des taxes. Meilleure façon d'orienter les femmes vers les tout-puissants gestionnaires décideurs nigériens pour demander des comptes. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Chevron, l'entreprise mise en cause dans cette affaire, prend quelques engagements pour faire taire les femmes d'Escravos. des embauches, des compensations partielles. Mais rien qui ne rende aux communautés leur santé et les poissons dont elles se nourrissaient avant que les multinationales du pétrole ne viennent dévaster le delta et dévorer ses ressources. Quant à la justice nigériane, elle n'est d'aucun secours. Les multinationales épuisent les procédures d'appel en appel et les peines, quand il y en a, ne sont pas appliquées. Face aux juges, ces entreprises européennes et américaines installées au Nigeria depuis les années 60 ont un argument choc. C'est pas nous, c'est eux. Malgré les rapports d'ONG qui font le constat d'accidents, de défaillances techniques ou du mauvais entretien de certaines infrastructures, les compagnies pétrolières n'assument pas leurs responsabilités. Selon elles, le delta n'est pollué qu'en raison du sabotage, du vol et du raffinage clandestin du pétrole orchestré par les populations locales. Dialogue de sourds. Avec le temps, les mouvements d'opposition nés dans les années 90 prennent des formes plus radicales. Face à l'inaction de l'État et des multinationales qui laissent les communautés du Delta dépérir avec leurs terres, une nouvelle organisation, militante et séparatiste, voit le jour en 2005, le MEND, le Mouvement pour l'émancipation du Delta du Niger. Son leader, Henri Oka, sur Al Jazeera English, défend ses méthodes.
À cette minute, il y a des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui sont prêtes à se battre. Il y a des milliers de personnes qui ne veulent même pas donner sa chance au dialogue. Je ne considère pas que je contribue à la violence, mais que je prends part à un combat pour mes droits, vous comprenez? Les compagnies pétrolières sont sur nos terres, et c'est tout ce qu'on veut obtenir d'elles, nos terres. Et je pense que si d'ici quelques mois, le gouvernement ne commence pas à parler aux bonnes personnes des vrais problèmes, il va y avoir de la violence. Très bientôt.
Sabotage de pipelines, attaque armée de camions-citernes ou de plateformes, prise d'otages d'employés des compagnies. Ce sont les méthodes du MEND, qui n'hésitent pas non plus à flirter avec les réseaux de trafiquants et de piraterie pétrolière. Pour réclamer des indemnisations et la dépollution du Delta, certains militants ont fait le choix de la lutte armée avant de prendre le tournant de la criminalité. Des réseaux de vol de pétrole brut et de raffinage clandestin, de bunkering, comme on dit en anglais, se structurent peu à peu. Faute de moyens de subsistance, les anciens pêcheurs et agriculteurs du Delta se tournent alors massivement vers l'illégalité pour survivre, au risque de participer eux-mêmes à la destruction du Delta. À l'abri de l'épaisse forêt tropicale, ils transforment le brut en carburant de mauvaise qualité dans de petites raffineries de fortune, délétères pour l'environnement. Les journalistes Nicolas Bertrand, Lucille Chaussois et Kylian Le Bouquin ont rencontré certains d'entre eux pour France 2.
On remplit le réservoir de pétrole. On va mettre 200 litres, même plus. On allume. Le pétrole va bouillir. En premier, on aura de l'essence. Ensuite, on va chauffer encore. Ça deviendra du kérosène et puis du diesel.
On ne voit pas ça comme du vol. Ce pétrole vient de nos terres, de notre sol. Dieu nous l'a donné. Les multinationales oublient qu'elles puissent ça chez nous. Si on avait un vrai métier pour survivre, on ne serait pas ici à raffiner.
Le raffinage illégal, nourri par la misère des communautés du Delta, offre aux compagnies pétrolières la possibilité de se dédouaner de toute responsabilité environnementale. D'autant qu'à partir des années 2010, le sabotage militant et les petits réseaux criminels laissent place à une économie de type mafieuse, impliquant des compromissions de la part des institutions nigérianes. Pour assurer la sécurité des pipelines et des plateformes pétrolières, l'État recourt ainsi à des sociétés paramilitaires locales, parfois elles-mêmes impliquées dans la criminalité. Trafic, extorsion, pot de vin, blanchiment, impunité judiciaire. Tantôt impuissants, tantôt complices, face à l'ampleur que prennent la criminalité et l'insécurité dans le Delta, le Nigeria figure régulièrement parmi les pays les plus mal classés dans l'indice de corruption établi chaque année par l'organisation Transparency International. Une position d'autant plus ambiguë que les autorités nigérianes ne peuvent ignorer l'impact désastreux de l'industrie pétrolière et de ses ramifications illégales sur le pays. En 2011, sous la pression locale et internationale, le gouvernement commande au programme des Nations Unies pour l'environnement une étude sur la pollution dans le Logoniland. Après 14 mois d'évaluation scientifique menée sur 200 sites, 122 km de pipeline, 4000 échantillons de sol et d'eau et 5000 dossiers médicaux, le constat de l'ONU est sans appel, comme l'explique son porte-parole Nick Nuttall à l'AFP.
Ce que montre le travail du Programme pour l'environnement des Nations Unies est que la pollution de la marée noire, la contamination du pétrole sont allées beaucoup plus loin qu'on ne le supposait antérieurement. Il y a des communautés dans le delta du Niger, plus précisément dans l'Ogoniland, qui sont exposées tous les jours à des niveaux chroniques de pollution pétrolière, à des cancérigènes démontrés tels que le benzène. Il y a vraiment des cas d'urgence où les gouvernements nationaux et locaux doivent agir et apporter de l'eau propre aux gens pour boire et cuisiner.
La multinationale Shell est la principale responsable visée par le rapport de l'ONU. Mais d'autres compagnies sont pointées du doigt, dont Total Energy. Les déversements pétroliers de ces entreprises étrangères, confirment les experts, contaminent l'eau, la terre et les corps depuis 5 décennies. Bien qu'il ne concerne qu'une infime partie du delta du Niger, le rapport de l'ONU insuffle un vent d'espoir parmi les populations locales et les associations qui défendent leurs droits. Le gouvernement nigérian lance alors un projet de dépollution de l'Ogoniland, financé par Shell, Total, Chevron et ExxonMobil, à hauteur d'1 milliard d'euros. Une opération dont les Nations Unies estiment qu'elle prendra 30 ans. En 2015, l'entreprise britannique accepte d'indemniser 15 600 parties civiles dans un procès à Londres impliquant le peuple Ogoni et d'autres communautés du Delta. 2 200 livres sterling pour chacune des personnes dont la vie a été bouleversée par une marée noire destructrice 7 ans auparavant, sans pour autant que Shell ne reconnaisse officiellement sa faute. De l'argent, donc, pour compenser les maladies et l'impossible subsistance au bord du fleuve. Mais aussi une promesse. Les marais seront nettoyés, la mangrove replantée. Cet accord, médiatique et coûteux, s'accompagne à la même époque d'une apparente prise de conscience de la part des multinationales qui redorent leur image à coups de programme RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Reportage dans l'état de Niger sur la chaîne d'information nigériane Arise News.
À l'échelle mondiale, l'autonomisation financière des femmes est reconnue comme la clé pour éradiquer la pauvreté et créer de la richesse. C'est avec cet engagement que Total Energy et ses partenaires ont inauguré un centre de développement et d'acquisition de compétences pour femmes dans la zone de gouvernement local de Tchantchaga, dans l'état de Niger. L'inauguration de ce projet a réuni 2 gouverneurs d'État qui ont salué l'initiative comme étant capable d'améliorer le développement socio-économique des bénéficiaires.
Centres de santé, écoles, laboratoires de recherche, distributeurs d'eau potable, travaux de voirie. Les projets fleurissent dans le Delta pour favoriser le bien-être de ses habitants et de ses habitantes, aux frais des compagnies pétrolières. Bien. Mais tandis que certains programmes voient le jour et offrent des services bienvenus aux populations locales, d'autres restent inachevés ou sans impact réel. Un vernis, selon certains observateurs. Un vernis qui participe parfois à accroître les tensions communautaires puisque tous les villages ne bénéficient pas des mêmes infrastructures. Quant aux opérations de dépollution du Delta, elles sont non seulement lentes, trop lentes, mais aussi inadaptées et inutiles, constatent les ONG nigérianes et internationales présentes dans la région. Un échec total, selon des responsables de l'ONU, qui décrivent des paysages lunaires, 15 ans après la publication du rapport qui avait relancé l'espoir en 2011. En 2024, l'agence Associated Press révèle des documents onusiens qui mettent en cause l'incompétence des sociétés missionnées par le gouvernement nigérian, dont la majorité appartiendrait à des politiciens. 2 monstres tentaculaires se partagent une fois de plus les restes du delta du Niger, l'industrie pétrolière et la corruption.
Shell PLC a signé un accord de cession de ses actifs pétroliers au Nigeria à un consortium local pour un montant de plus de 1,3 milliard de dollars. Un communiqué publié aujourd'hui souligne l'orientation stratégique de Shell vers l'optimisation de son portefeuille et la concentration de ses investissements dans des projets gaziers en eau profonde au Nigeria. Cette décision stratégique s'inscrit dans l'objectif plus large de Shell de quitter le paysage opérationnel exigeant de la région du Delta du Niger.
Shell dans le delta du Niger, c'est fini. C'est ce qu'annonce la chaîne nigériane indépendante Channels Television en janvier 2024. Terminé les pépines rouillées, les marées noires, les vols et les procès. Plusieurs fois condamné par la justice pour sa responsabilité dans la pollution de la région, la société britannique Shell, pionnière et géante du pétrole au Nigeria, entend désormais se concentrer sur l'exploitation offshore dans le golfe de Guinée. Plus sûr, plus rentable et surtout moins exposé médiatiquement. Avec elle, d'autres compagnies étrangères comme Total, Eni ou ExxonMobil se désengagent en cédant leurs actifs à des entreprises nigérianes. Le Delta, souillé par 60 ans d'exploitation effrénée, de trafic et d'insécurité, manque désormais d'intérêt. Et c'est aux autres de nettoyer. Mais les sociétés nigérianes qui rachètent les infrastructures fatiguées des géants du pétrole ne semblent pas faire grand cas de l'état du Delta. Bien au contraire. Selon l'ONG Environmental Defense Fund, la revente des puits de Shell aurait été accompagnée d'une augmentation des émissions de CO2 liées au torchage des gaz. Le Delta du Niger, sacrifié sur l'autel du pétrole, reste aujourd'hui un territoire blessé, où résonnent pourtant avec force les voix de celles et ceux qui l'habitent. En 2027 doit se tenir au Royaume-Uni un nouveau procès intenté par les communautés des villages de Bill et Dogale contre Shell. Une procédure qui confrontera la multinationale à des milliers de victimes et qui constituera, en cas de victoire, un précédent majeur en matière de responsabilité environnementale des entreprises.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, pollution sur le delta du Niger, pollution industrielle, dont nous allons parler avec Juliette Trenot, notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du secteur extractif et coordinatrice de l'association Les Amis de la Terre. Alors, 14 ans après le rapport publié par l'ONU, donc en 2011, sur la pollution de la région Ogoni, dans le delta du Niger, où en sont les opérations de dépollution au Nigeria? Et surtout, est-ce qu'on peut avoir l'espoir de nettoyer tout le pétrole?
Malheureusement, non. Enfin, le territoire est pollué pour des décennies et peut-être même à tout jamais. Et comme ce qui était expliqué, là, ce qui se passe en ce moment, c'est que toutes les grandes multinationales essayent de partir et de vendre leurs actifs. Donc c'est le cas de Shell, de Total, etc. Et du coup, ils partent sans avoir nettoyé toute la pollution qu'ils ont creusée pendant toutes ces décennies. Et donc c'est cette nouvelle bataille maintenant qui s'ouvre sur le départ de ces grandes multinationales.
C'est-à-dire nettoyer avant de partir?
C'est ça, nettoyer avant de partir et en tout cas payer avant de partir. Et donc la question de leur responsabilité pour la pollution causée toutes ces dernières années, toutes ces dernières décennies même.
Alors quel rôle ont joué et jouent les associations locales, internationales, les Amis de la Terre, dans le delta du Niger? Je veux dire, quels sont vos leviers d'action face aux multinationales, à leurs milliards de bénéfices et donc à leur puissance?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, les Amis de la Terre, on est une fédération internationale. Donc, il y a des groupes Amis de la Terre dans un grand nombre de pays, et notamment au Nigeria. Le groupe s'appelle Environmental Rights Action. Il a été créé dans les années 90. Et pour le coup, il s'est allié notamment avec les Amis de la Terre Pays-Bas, Milieu Defensi, pendant des années pour faire campagne, enquêter et faire des procès contre Shell. On a aussi, nous, fait plusieurs actions avec les Amis de la Terre Nigeria par rapport à Total. Notamment, il y a une dizaine d'années, il y avait eu des grandes explosions dans leurs champs pétroliers qui avaient créé des nouvelles pollutions et nouveaux accaparements de terres. Et donc, ce qu'on fait, c'est le travail des Amis de la Terre au Nigeria, c'est de soutenir les populations affectées au plus près et essayer aussi de faire changer les choses au niveau du Nigeria dans la législation, faire respecter la législation, comme on parlait notamment sur l'interdiction du torchage du gaz qui a continué malgré le fait que c'était interdit dans la loi depuis 1984. Et donc, aux Pays-Bas, il y a eu notamment un grand procès contre Shell mené par les Amis de la Terre Pays-Bas, Nigeria et quatre paysans nigérians qui représentaient finalement leur communauté dans différents villages. Le procès a commencé en 2008. En 2021, Shell a été condamné. Donc, les quatre plaignants nigérians étaient décédés. Donc, ça, c'est aussi la question de la durée de ces bataille judiciaire, mais finalement Shell a été condamné à payer 15 millions d'euros aux communautés de ces villages par rapport à la pollution qui a été causée. Et ce qui est important, c'est que en 2021, il y a eu cette reconnaissance de la responsabilité de la maison mère aux Pays-Bas par rapport aux activités de la filiale nigériane. Et ça aussi...
Oui, pardon, finissez, je vous en prie.
Non, non, j'allais dire que ça aussi, plus globalement, au niveau international, c'est une des batailles qu'on a avec beaucoup d'autres associations et syndicats, de faire reconnaître la responsabilité des maisons mères, des multinationales, des sociétés donneurs d'ordre par rapport aux activités de leurs filiales et sous-traitants.
Et c'est la justice nigériane qui a rendu jugement ?
Non, c'est la justice néerlandaise.
Néerlandaise, vous le disiez. Alors justement, la justice nigériane... Est-ce qu'elle indemnise? Est-ce que les multinationales sont obligées d'indemniser sur décision judiciaire nigériane?
Alors, je sais qu'il y a eu des actions en justice au Nigeria, mais finalement, là où il y a eu des condamnations et l'obtention de certaines choses, c'était plutôt devant les tribunaux britanniques et néerlandais par rapport à Shell. Sur Total, il n'y a pas eu de procès directement sur le Nigeria, mais par contre, on est engagé dans une action en justice contre Total par rapport à ses activités en Ouganda et en Tanzanie.
Donc, vaut mieux s'adresser à la justice d'autres pays qu'à celle du Nigeria, c'est ça que vous voulez dire ?
Malheureusement, alors c'est pas seulement le cas du Nigeria, mais dans un grand nombre de pays du sud global notamment. Alors soit les lois sont trop faibles, soit elles ne sont pas respectées du fait de systèmes aussi judiciaires. Il peut y avoir la corruption, il peut y avoir le manque de moyens. Le fait est qu'en effet l'accès à la justice dans ces pays n'est pas toujours réel, ou même parfois on arrive à faire condamner, comme c'est le cas de Chevron en Équateur, qui a été condamné par les tribunaux équatoriens par rapport à la pollution de la forêt amazonienne, mais Chevron a dit « Ah mais non, mais nous on n'a pas d'argent en Équateur », et la maison mère dit qu'ils ne sont pas responsables. Donc c'est pour ça qu'on lutte. Donc on a réussi à faire passer une loi en France qui s'appelle la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. On se bat aussi à l'ONU depuis 2015 pour l'adoption d'un traité sur les multinationales et les droits humains, pour que les multinationales ne puissent pas, qui sont donc par définition des acteurs transnationaux, ne puissent pas profiter de ces vides juridiques d'un pays à l'autre et jouer sur les paradis fiscaux, réglementaires, etc., pour continuer de violer les droits humains, continuer de faire des profits tout en détruisant l'environnement et le climat.
C'est clair. Alors, notre conversation est adossée à une actualité, puisque la COP30 de l'ONU se tient depuis le 10 novembre jusqu'à vendredi au Brésil, avec cette question. Les engagements pris depuis l'accord de Paris de 2015 ont-ils réellement ouvert la voie à une substitution des énergies fossiles par les renouvelables? J'ai envie de dire oui ou non. Bon sang, oui ou non?
Malheureusement, non. Et le pourquoi on n'avance pas, c'est d'une part une manque de volonté des États, de aussi tourner la page et d'aller vraiment sur des vraies solutions. Mais pourquoi aussi les États ne tournent pas cette page? C'est parce qu'on a aussi la puissance, encore une fois, des multinationales, cette fois-ci au travers de leur lobby. Et donc, depuis des années, ils retardent aussi la mise en place de vraies solutions en se présentant, après des années de déni climatique, ils se présentent maintenant comme une des solutions à la lutte contre le réchauffement climatique, sauf que bien sûr que les solutions proposées par les multinationales sont plutôt pour continuer le business as usual et ne pas engager une vraie transition énergétique.
France Inter. Affaires sensibles.
Juliette Renaud, je rappelle que vous êtes spécialiste du secteur extractif et coordinatrice de l'association Les Amis de la Terre. En février 2022, Total Energy a annoncé investir 10 milliards de dollars pour la construction d'un oléoduc de plus de 1400 km. D'ailleurs, c'est le plus long au monde. Il se situe entre l'Ouganda et la Tanzanie, ainsi que le forage de 400 puits en Ouganda. C'est un méga projet contre lequel Les Amis de la Terre, avec d'autres associations, intenter une action judiciaire. Expliquez-nous.
Alors, donc oui, il s'agit des projets Tilanga et Ikop. Donc, Tilanga, c'est les projets de forage depuis en Ouganda, dont un tiers dans une aire naturelle protégée dans la région des Grands Lacs. Donc, on se trouve dans une zone majeure pour la biodiversité mondiale. Et Ikop, pour East African Crude Oil Pipeline, qui est donc cet oléoduc chauffé géant qui doit traverser tout l'Ouganda et la Tanzanie pour arriver jusqu'au port de Tanga et l'océan Indien et pouvoir exporter ce pétrole. Et donc, on est engagé aux côtés des communautés affectées depuis 2018-2019, où on a lancé une première action en justice fondée sur cette loi sur le devoir de vigilance dont je vous parlais, qui est une loi qui a été adoptée en 2017, qui est une pionnière au niveau international, puisqu'elle reconnaît cette responsabilité des maisons mères des multinationales, donc ici Total, par rapport aux activités de leurs filiales et sous-traitants, donc ici en Ouganda et en Tanzanie. Donc cette première action en justice visait à essayer d'obtenir une décision avant que les violations des droits humains et les forages, les dommages environnementaux ne commence, parce qu'il faut savoir ces deux projets impliquent l'expropriation de plus de 100 000 personnes, totales ou partielles. Ces personnes ont été privées du libre usage de leurs terres, alors qu'il s'agit de paysans, avant même de recevoir une compensation pendant plus de 3 à 5 ans. Et ils ont aussi cédé leurs terres sous la pression. Maintenant, malheureusement, on a été pris dans des questions de procédure. C'était la toute première action fondée sur cette loi. Total a utilisé différents arguments pour essayer de tuer le procès dans l'œuf. Et donc finalement, en 2023, on a lancé une nouvelle action en justice avec donc toujours d'autres associations survie en France et d'autres associations en Ouganda et aussi des personnes affectées directement d'Ouganda, cette fois-ci pour demander réparation pour les violations qu'elles ont subies. Et donc cette action en justice est toujours en cours. Elle est aussi fondée sur cette loi de devoir de vigilance. Et en septembre, donc il y a deux mois, tout juste, le 18 septembre, on a remporté une victoire d'étape puisque le tribunal a ordonné à Total de nous communiquer un très grand nombre de documents, de preuves, parce qu'il faut savoir que la première bataille pour un accès à la justice effectif, c'est de pouvoir avoir les preuves, pouvoir bien documenter sûr. Les violations et pouvoir documenter la faute de Total, la responsabilité de la maison mère. Et donc voilà, là on est plein dans l'analyse de tous ces documents.
Et la force de grosses entreprises comme Total, c'est la com sous forme d'enfumage. Hein. Et à propos des projets Tilanga et Ikop, Total Energy assure que l'entreprise met, alors je la cite, hein, tout en œuvre pour en faire un projet exemplaire en termes de transparence, de prospérité partagée, de progrès économique et social, de développement durable, de prise en compte environnementale et de respect des droits humains. Il manque que le féminisme, là. Ils sont parés de toutes les vertus. Bon, et qu'est-ce qui a été mis en place? Ça, ce sont des mots.
Ouais, alors vous oubliez aussi leur promesse de laisser un impact positif net sur la biodiversité, donc en forant dans des aires naturelles protégées, on se demande encore pourquoi. Donc oui, en effet, c'est-à-dire que nous, on a mené cette action en justice, on a utilisé nos leviers plus historiques, qui est de faire pression, campagne, de parler, de rendre public les enquêtes qu'on a révélées, que ce soit en Ouganda, en France, où on fait partie de tout un réseau international qui s'appelle Stop Ikop. Il a commencé à avoir une mobilisation tellement importante que Patrick Pouyanné lui-même, donc le PDG de Total, a dit que Ikop, c'était devenu le symbole de la lutte anti-pétrole. Et donc, Total a déployé en face tout un arsenal de communication. Ils ont organisé un grand nombre de voyages de presse pour emmener les journalistes là où ils avaient envie de les emmener, essayer de montrer qu'en fait, le projet était responsable. Mais on est plusieurs années, il y a les rapports, non seulement nos rapports d'enquête, de d'autres associations, les enquêtes de journalistes, les rapporteurs spéciaux des Nations Unies, enfin, toutes les accusations se multiplient et corroborent en fait ce qu'on dénonce et ce que les populations dénonçaient depuis le départ. Et donc maintenant c'est surtout à la justice aussi de se prononcer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que oui, le greenwashing et la communication est un des outils qu'utilisent les multinationales pour essayer de non seulement dorer leur image, mais aussi continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait et donc continuer dans cette impunité.
Mais le greenwashing, c'est interdit par la loi, non ?
Alors, on a aussi, en effet, en ce moment, ça va pas sur tous les fronts, comme vous avez le contexte, est un peu difficile, notamment avec beaucoup de reculs sociaux, environnementaux. Mais c'est vrai que côté judiciaire, on a eu une autre victoire également contre Total pour une action en justice qu'on avait lancée avec Greenpeace et Notre Affaire à Tous, donc les Amis de la Terre, Greenpeace et Notre Affaire à Tous, en 2022, suite à la campagne, grande campagne publicitaire qu'avait fait Total pour passer, donc pour changer de nom de Total à Total Energy, faire croire qu'ils étaient devenus une compagnie multi-énergie. La justice a condamné Total, reconnaissant que Total avait intentionnellement induit le consommateur en erreur en se présentant comme un acteur de la transition énergétique et en disant qu'ils allaient, que leur ambition était d'atteindre la neutralité carbone. Et donc ça, c'est important parce que ça veut dire que les compagnies ne peuvent pas continuer à dire n'importe quoi et on ne peut pas continuer à faire le grand écart entre le discours et la pratique. Ouais.
Alors, ces affaires peuvent être graves. Parce que l'autre projet phare de Total Energy en Afrique, c'est un méga projet de gaz liquéfié dans le nord du Mozambique, évalué à 23 milliards de dollars. Et là aussi, la multinationale est sous le coup d'accusation en France et au Mozambique, où des informations judiciaires ont été ouvertes. Alors, on parle de viol, d'enlèvement, de meurtre.
Oui, c'est extrêmement grave ce qui se passe au Mozambique. Donc c'est un méga projet gazier. Là, il y a là aussi plusieurs compagnies, il n'y a pas que Total, mais Total en particulier avec son projet Mozambique et LNG est sous le coup de deux plaintes pénales en France. Une première qui a été lancée il y a deux ans suite à ce qu'on appelle l'attaque de Palma, donc une attaque terroriste qui a eu lieu en 2021 où il y a plus de 1000 personnes qui sont mortes et notamment des travailleurs de Total qui ont en 2022, déposer plainte par rapport aux complicités de Total et son manque d'action pour prévenir pour mettre à l'abri en fait ces personnes. Et aujourd'hui même, une nouvelle plainte a été déposée pour des faits extrêmement graves. Il s'agit ici d'une plainte pénale pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forfait au Mozambique. Oui, donc c'est suite à cette attaque de Palma en 2021, les forces armées mozambicaines, y compris des membres de ce qu'on appelle la Joint Task Force, qui sont des forces armées qui étaient soutenues et financées par Total, auraient arbitrairement détenu des dizaines de civils dans des conteneurs métalliques pendant plusieurs mois. Ils les auraient torturés, ils auraient été victimes de disparitions forcées, plusieurs auraient été exécutés. Et du coup, là, ce qui est cette plainte qui a été déposée, et donc on espère que une enquête sera ouverte, porte sur la complicité totale et notamment le fait qu'ils savaient que les forces armées mozambicaines violaient les droits des civils au moment, en 2020, quand ils ont choisi de passer ce partenariat avec cette Joint Task Force.
Effectivement, l'affaire est grave. Et ce sera le dernier mot, Juliette Renaud. Merci, je rappelle que vous êtes spécialiste du secteur extractif et coordinatrice de l'association Les Amis de la Terre. Merci d'être venue.
Merci à vous.
C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, le Delta du Niger. Pollué, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot.